Changer de pays pour fuir la misère, les persécutions, les guerres ou le changement climatique, le mot migrant est un mot qui suscite actuellement beaucoup de fantasmes. Certains évoquant des invasions possibles, comme en septembre dernier, lorsque le gouvernement a décidé de relocaliser 9000 migrants de la jungle de Calais. Dans son ouvrage « L'âge des migrations », qui paraît aux éditions Autrement, le démographe Hervé Lebras explique que la perception de la migration s'est totalement détachée de la réalité. Un ouvrage à la fois utile et éclairant à l'heure où justement l'immigration est brandie comme une menace dans certains discours politiques, et puis l'occasion également de nous rappeler que les déplacements de population ont toujours existé et que notre espèce Homo sapiens, depuis son berceau africain, doit sa survie et son succès à sa capacité à migrer. C'est donc le dossier de l'émission cet après-midi avec vos messages et vos questions, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, la première expertise collective sur le devenir du loup.
Oui, dans un contexte toujours tendu, c'est la première évaluation poussée de l'état des populations de loups en France, et on en parle avec le coordinateur de ce rapport, l'écophysiologiste Yvon Lemao.
Stéphanie Texier réalise cette tête au carré qui a été préparée par Chantal Le Montagnier avec Thomas Le Hété.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Hervé Lebras.
Bonjour.
Vous êtes démographe et historien et donc vous publiez L'âge des migrations aux éditions Autrement. Pourquoi autant de fantasmes et de mensonges autour des supposées invasions de migrants ?
C'est une question que je me suis souvent posée, mais ces fantasmes perdurent et surtout ils résistent à toutes les données de fait concernant les migrations. Alors une partie de ces fantasmes, et vous l'avez dit dans votre introduction, c'est aussi que progressivement le vocabulaire qui parle de la migration a poussé vers une certaine idée des migrants, et notamment dans mon livre, tout à la fin du livre, j'essaye de montrer que l'utilisation du mot « immigré » est une utilisation dangereuse, parce que d'abord c'est assez mal défini, un immigré pour dans la définition française, c'est une personne née étrangère à l'étranger. Donc actuellement 40% des immigrés en France sont en fait des Français. Donc c'est déjà, on fait une distinction entre les Français qui n'est pas légitime. Et puis le passé laisse entendre que une fois que la personne est arrivée en France, donc quand elle arrive, elle est un migrant, elle va s'installer et elle va rester définitivement. Alors que de plus en plus, on assiste à une circulation à l'échelle d'ailleurs de la planète.
Voilà, et c'est ce décalage que vous montrez très bien justement entre la réalité des faits et puis les fantasmes qui sont donc véhiculés aujourd'hui. On va en parler avec vous dans un instant et puis revenir sur l'histoire également des migrations. Elle nous concerne de très près, elle a démarré en Afrique et les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de la Tête au Carré.
La science de l'environnement, en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et comment se portent les quelques 300 loups qui vivent sur le territoire français ? Un rapport remis vendredi tente de répondre à cette question et c'est aujourd'hui à la une de la science.
292 loups sont répertoriés en France selon l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Des hurlements caractéristiques, une tanière et deux cadavres de chevreuil retrouvés dans les Yvelines. Pour deux associations, cela ne fait plus aucun doute, le loup est de retour en Île-de-France.
Et pour évoquer ce rapport, Yvon Lemao est avec nous en ligne. Bonjour.
Bonjour.
Yvon Lemao, vous êtes directeur de recherche émérito CNRS. Vous avez présidé justement l'équipe de 24 chercheurs qui a rédigé ce rapport remis donc vendredi au ministère de l'écologie. Et puis avec nous, pour en parler, puisque nous sommes lundi, c'est le jour de l'écologie, Hervé Kempf avec Reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ce rapport, Hervé ?
Eh bien, on va le détailler avec Yvon Lemao, mais recadrons déjà rapidement pourquoi il a été réalisé, ce rapport. Le loup, donc, est revenu en France depuis 10 ans. Il avait disparu depuis près d'un siècle, mais maintenant, nous sommes à 300 individus qui colonisent le sud-est, le sud du Massif central, les Vosges, et même, on se pose la question pour savoir s'il y aurait des loups en Île-de-France.
Comme on l'entendait à l'instant.
Ouais. Exactement. Ça a suscité un conflit très vif entre les paysans, surtout les petits éleveurs et les bergers, au point que, alors que le loup est une espèce protégée par un traité international, la Convention de Berne, modernes, eh bien, des tirs de loups ont été autorisés depuis quelques années, et ça n'est plus marginal, puisque jusqu'à 40 sont autorisés pour l'année. Rapporté à une population de 300, on peut se demander si ça met en cause la viabilité de l'espèce sur le territoire français, d'où cette étude lancée par le Muséum d'Histoire Naturelle et l'Office National de la Chasse, sous l'égide du ministère de l'Environnement, et qui a été coordonnée par Yvan Lemao, qui sera plus raisonnable que moi pour bien répondre à la question que vous posiez, Mathieu.
Axel. Alors, oui, Yvan Lemao, le rapport est très gros, il fait 80 pages. Qu'est-ce qu'il faut en tirer d'important en quelques mots ?
En quelques mots, on constate actuellement une stabilisation de la population, mais il est encore impossible de dire quelle va être la suite. En effet, rien ne prouve qu'il y a une relation de cause à effet entre cette stabilisation et les tirs dérogatoires, qui, comme vous l'avez dit, ont démarré il y a quelques années. Et par ailleurs, on constate également une augmentation du nombre de meutes. Et habituellement, une augmentation du nombre de meutes est corrélée avec une augmentation de la population. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut rester très prudent. On attend avec une grande impatience la prochaine évaluation qui sera faite courant avril.
Alors, la question qui vous était posée quand même à vous et au groupe de chercheurs avec qui vous avez travaillé, c'est est-ce que la présence du loup est viable à long terme ? Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Alors, il est impossible de répondre autrement à cette question qu'en se basant sur la littérature scientifique. Et on constate habituellement que pour une espèce, il faut de cette taille-là, un prédateur, il faut environ 2500 individus pour que la population soit viable génétiquement. Par contre, pour qu'elle soit viable démographiquement, il suffit d'environ 400 individus, donc là on est assez près de l'effectif.
Avec 300, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, recensés sur le territoire français.
Hein. 300 recensés, oui, absolument.
Le but maintenant, en tout cas du côté écologie, c'est de laisser croître cette population ?
Alors écoutez, nous ce qui nous a été demandé, c'est de voir... quelle est, encore une fois, la viabilité de cette population ? Alors, la demande nous a été faite au niveau français. Bien sûr, on aurait pu la voir au niveau européen, mais dans ce cas-là, si on la voit au niveau européen, on voit qu'on a déjà largement atteint l'effectif de viabilité génétique, mais dans ce cas-là, ça suppose une politique de conservation et de gestion au niveau européen.
Hervé Kempf.
Vos propos, comme le ton d'ailleurs de votre discours, c'est extrêmement prudent.
Ben moi, oui.
J'aurais envie de vous demander, est-ce que 40, un abattage de 40 animaux sur 300, est-ce que ça n'est pas excessif ? À quel niveau fixez-vous la limite de l'abattage autorisé, enfin possible biologiquement ?
Écoutez, c'est impossible de répondre à cette question et je crois que si vous voulez, l'expert sérieux connaît les limites de son expertise. Et tous les modèles mathématiques, bien qu'on ait les meilleures équipes, parmi les meilleures au monde en France, hein, vous savez que les Français sont très forts, les scientifiques français en mathématiques, bien que on ait les meilleurs spécialistes, on ne peut pas répondre. C'est beaucoup trop compliqué, on connaît les limites des modèles, et le fait qu'il y ait 3 années successives avec une stabilisation amène évidemment à la prudence. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore une augmentation cette année.
Il y a quand même un chiffre dans le rapport qui peut aider à répondre, c'est les 34%. C'est la mortalité totale à pas dépasser par an pour maintenir une population stable. Est-ce que en 2015-2016, ces 34% ou ce seuil a été respecté ?
On ne peut pas le savoir. On ne saura que quand on aura les nouveaux comptages. Mais effectivement, c'est un chiffre absolument clé. C'est un chiffre qui intègre à la fois les tirs s'il y a tirs, et aussi la mortalité liée aux contraintes climatiques de ressources. Et on sait que la mortalité à ce niveau-là est très très importante au niveau des loups, et notamment parmi les jeunes loups. C'est-à-dire que dès qu'il y a une diminution du gibier, il y a une régulation de la population avec une mortalité importante des jeunes loups.
Yvan Lemao, l'abattage justement, c'est pour l'instant la meilleure solution a priori pour protéger les troupeaux ou pas ?
Ah ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Il y a d'autres études qui suggèrent que des méthodes non létales, d'effarouchement par exemple, pourraient être plus efficaces. Mais ça fait partie, si vous voulez, d'une commande du ministère. Le ministère s'est évidemment posé toutes ces questions, pas seulement celle de la viabilité. Et il y a d'autres groupes de travail dans ce domaine, mais ça sort de notre propre expertise.
Il manque beaucoup de réponses quand même, hein, on le voit bien.
Ah, il manque beaucoup de réponses, absolument.
Peut-être que vous allez pouvoir répondre à cette question. Est-ce qu'on connaît l'impact des loups aujourd'hui sur les écosystèmes forestiers ?
Alors, on les connaît à travers notamment une étude qui a été réalisée au parc du Yellowstone, aux États-Unis donc. Le loup, là-bas, a été introduit contre l'avis de tous ceux qui étaient impliqués dans le parc, et notamment des chasseurs. Et quand même aujourd'hui, il y a un avis unanime que le loup a permis... Alors pourquoi il était introduit, pardon, j'aurais dû vous le dire, parce qu'il y avait une dégradation de l'environnement liée au caractère surnuméraire des cervidés. Et le loup, manifestement, a joué un grand rôle de régulation.
Est-ce que le problème des cervidés est le même en France ?
Eh bien, moi je vis en Alsace, et récemment, le dernier Nouvelle Alsace, vous savez, le journal, le grand journal de l'Alsace, parlait de ce problème avec une diminution du revenu forestier qui est estimée à peu près 20 à 30%, ce qui est énorme.
Yvan Lemot, merci beaucoup. En tout cas, cette première expertise collective sur le devenir du loup nécessite quelques travaux supplémentaires, on l'a bien entendu, avec des réponses qui restent à donner. Et puis, on en parlera quand même sur reporter.net.
Bien sûr, dès demain.
En allant se connecter. Merci beaucoup. Et Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les adolescents inactifs ont des os fainéants. L'absence d'activité sportive régulière amoindrit le développement osseux. C'est une étude canadienne qui pointe du doigt le phénomène. Les chercheurs ont suivi la croissance de 300 jeunes pendant 4 ans. Les observations montrent une nette différence entre ceux qui font au moins une heure de sport par jour et ceux qui en font moins de 30 minutes. Les os de ces derniers sont moins gros, moins denses, présentent une architecture moins développée. La bonne nouvelle, c'est que même les activités les plus simples sont efficaces pour contrer le phénomène. L'une des évolutions les plus spectaculaires du génome humain a été identifiée, elle est due au paludisme. Il s'agit d'une mutation génétique apparue il y a 42 000 ans en Afrique subsaharienne et qui a modifié nos globules rouges. À l'époque, cette mutation n'était qu'un variant génétique porté par une poignée de personnes. Des chercheurs américains ont montré qu'à peine 8 000 ans plus tard, 99% de la population était en possession de ces globules mutés. Une progression fulgurante de la mutation qui serait due au paludisme qui infecte plus facilement les cellules non mutées. La mutation ne serait donc répandue dans la population comme une réponse à cette maladie, un exemple de sélection naturelle. Et puis certains nuages martiens pourraient être modelés par des ondes de gravité encore inconnues, c'est l'hypothèse de chercheurs canadiens qui ont travaillé sur des images fournies par le robot Curiosity. On y voit des nuages se déplaçant en rangées parallèles, un peu comme des ondes à la surface de l'eau quand on lui jette un caillou. Le phénomène avait déjà été observé au pôle de la planète rouge, mais cette fois-ci c'est au niveau de l'équateur qu'il s'est produit. Les chercheurs ont remarqué que l'épaisseur de ces nuages variait au fil de la journée. La seule explication proposée pour ces formes très particulières serait la présence d'ondes de gravité autour de la planète Mars, ondes dont l'origine reste parfaitement mystérieuse. Allez, l'âge des migrations, c'est le dossier de l'émission dans un instant. C'est pour ça que j'y pense. High Cowboy et J'ai de l'or.
La tête au carré sur France Inter.
Hervé Lebras, vous êtes donc l'invité de l'émission cet après-midi à l'occasion de la sortie de votre livre « L'âge des migrations » qui est publié aux éditions Autrement. Vous êtes démographe, historien, directeur d'études à l'EHESS et directeur de recherche émérite de l'INED. Et les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions. Franceinter.fr, le mot-clé « L'attaque », message qui arrive déjà sur le site. Hervé Lebras, la peur des migrants vire totalement à l'obsession. C'est là-dessus que vous commencez votre livre. Beaucoup de personnalités politiques alimentent les fantasmes et les peurs avec ce thème. Donc, vous éclairez à la lumière de l'histoire. Pourquoi justement aujourd'hui se cristallise vraiment dans le débat politique cette question de l'immigration ?
Je pense que c'est pour des raisons justement politiques, parce que un parti politique a fait sa fortune très largement sur cette question de migration. Parce que si on regarde le développement des migrations dans la France, je dirais il y a rien de nouveau. Ou ce qui est peut-être nouveau, c'est que le solde migratoire, c'est-à-dire la différence entre le nombre de ceux qui arrivent et le nombre de ceux qui partent, est faible, même très faible, par rapport à notre histoire. Dans les années 60, chaque année, il y avait un supplément, si on peut dire, un solde positif de 200 000 personnes. Maintenant, les comptages de l'INSEE donnent, selon les années, depuis 2008, entre 50 000 et 70 000 personnes. Pour donner un autre exemple, il y a actuellement en France une moindre proportion d'étrangers et d'immigrés qu'il y en avait dans les années 30, par exemple au moment du Front populaire. Donc, du point de vue de la réalité, très peu de choses ont changé, et plutôt une diminution des migrations en termes de solde migratoire. Mais je pense que c'est la politique qui a changé.
Ça vous stupéfie ce décalage justement entre la réalité des faits, des chiffres, des cartes qui parlent, et puis évidemment la façon dont le discours est totalement détourné aujourd'hui ?
Oui, ça me stupéfie, et d'autant plus que je pense que c'est dangereux, parce que ça, il faut regarder la réalité en face. Je vais vous donner un exemple. J'ai l'air d'être très rassurant avec ce chiffre d'un solde de 70 000 personnes, c'est-à-dire à peu près 1 pour 1000 de la population. Mais quand on regarde de près le solde, on voit qu'il y a un solde positif d'à peu près 170 000 étrangers. Donc il y a 170 000 étrangers de plus chaque année, et un solde négatif, 200 000 Français. Chaque année, 200 000 Français quittent la France, et 100 000 seulement y reviennent. Ouais. Et là, c'est un véritable problème. Mais du fait qu'on fait peur de l'immigration, on ne voit pas les migrations, c'est-à-dire les sorties. Et il faut regarder de près, car ces sorties de Français, c'est des sorties de jeunes Français avec des diplômes, pas forcément des très gros diplômes, mais c'est des types qui en veulent très souvent. De la même manière d'ailleurs, l'arrivée des étrangers, c'est des arrivées aussi de jeunes, et ce que je montre dans mon livre, de jeunes qui de plus en plus souvent sont diplômés.
Oui, donc il y a cette immigration française aussi qu'il faut pas oublier non plus au passage.
Oui, et on l'oublie parce que, et vous m'aviez interrogé sur le langage au tout début, on a commencé à en parler, c'est parce que on ne parle pas d'émigrés, des apostrophes émigrés, on parle d'expatriés. Alors, l'expatrié signifie qu'ils vont revenir. Ouais. Mais quand l'expatrié se pointe au Canada, on l'appelle un immigré, c'est comme les
absolument,
autres.
Absolument.
Et beaucoup d'entre eux ne reviendront pas. Beaucoup d'entre eux, quand ils partent, souhaitent revenir, de la même manière que les migrants qui viennent de Maroc, de Tunisie, ou d'Afrique subsaharienne, pensent qu'ils vont revenir, qu'ils ne sont pas là pour longtemps. Et puis, progressivement, ils s'installent. Certains se marient, font des enfants. Il y en a qui achètent une maison. Et puis, progressivement, leur retour devient simplement un rêve. Et ils sont devenus des Français.
Alors, intéressant justement de comprendre les raisons qui suscitent ces migrations. Voici, alors, on commence par un exemple français, justement, puisque vous l'évoquez, avec un Français qui a choisi de s'expatrier à San Francisco, et c'est extrait d'un documentaire de France 24.
À Dubaï ou aux États-Unis, les jeunes Français viennent chercher des investisseurs. Julien a choisi la Silicon Valley en Californie pour lancer ses startups.
Holidog, c'est Airbnb pour chiens qui permet en fait de facilement trouver un petit air pour faire garder son animal quand vous partez en vacances.
Il a bien essayé de développer son entreprise en France, mais sans succès.
Les investisseurs français me disent « Ok, le marché est trop petit en France, il faut voir plus grand », mais quand je leur dis « Je vois plus grand », c'est trop risqué.
Et ici, qu'est-ce qu'on dit ?
C'est génial. ok, combien je dois mettre?
Voilà, Hervé Lebras. Alors, un exemple, hein, parmi tant d'autres, d'une raison qui justifie justement cette migration d'un Français à San Francisco, là, pour des raisons de travail et des raisons économiques, des raisons de facilité en tout cas. Hein.
Oui, parce que les jeunes Français, il y avait une enquête Ipsos récente, les jeunes Français ont envie de travailler et ils ont envie, au fond, d'avoir un avenir intéressant.
Et c'est pas en France qu'ils vont le trouver ?
Eh bien, hélas, beaucoup d'entre eux, par exemple, quand on interroge ceux qui sont en Angleterre, peut-être d'ailleurs avec le Brexit, ils seront contraints de revenir, mais ils disent, on ne vient pas, on n'est pas en Angleterre parce qu'on a de meilleurs salaires, on est en Angleterre parce qu'on a de meilleures perspectives. Et quelque part, c'est au fond une certaine sclérose des structures hiérarchiques en France.
Et des dynamiques.
Il faut qu'ils attendent avant de monter. Et c'était clair dans le reportage que vous venez de passer que, eh bien, voilà, les perspectives étaient ouvertes quand on était aux États-Unis ou quand on est, à vrai dire, aussi en Angleterre.
Alors, les mots, justement, le vocabulaire pour désigner les migrations, vous y consacrez une petite partie dans cet ouvrage, mais c'est important d'en discuter. D'abord, une première chose, on a l'impression que le mot de migrant s'est substitué quand même au mot d'immigré depuis quelques temps. Est-ce que c'est...
Alors,
une
il s'est
réalité,
substitué,
selon vous, ou pas ?
Oui, dans les médias, certainement, parce que il fallait désigner l'arrivée des réfugiés. Et je pense qu'il y a peut-être même qu'on ne voulait pas trop employer le mot réfugié, parce que réfugié, ça veut dire qu'il y a la Convention de Genève, et ça veut dire qu'on a des devoirs envers les réfugiés, et les réfugiés sont des réfugiés politiques. Donc, le mot migrant était un moyen de dire à la fois que c'était des différents de personnes qui allaient s'installer en France, mais que ce n'était pas non plus des réfugiés. Je crois aussi que il y a une autre affaire très importante qui est l'affaire de Calais, qui a succédé à l'affaire de Sangatte.
Ouais, les migrants de Calais.
Eh ben oui, parce que eux étaient vraiment des migrants. Ils ne voulaient pas rester en France. Ils n'avaient, c'était absolument pas des immigrés. Donc là, il fallait trouver un mot. Et je crois qu'on a pris migrant. On dirait beaucoup plus dans les termes consacrés que c'est des migrations de passage ou des migrations de transit.
Donc la connotation est plus péjorative pour le terme d'immigré.
Je pense qu'elle est plus péjorative, du moins dans un ouvrage plus ancien, j'avais cherché dans la littérature des années 30 quelle était au fond l'origine de tous ces termes. Et on voyait bien que dans les années 30, on utilisait le mot migrant pour l'étranger qui travaillait en France. Et quand l'étranger ne travaillait pas, on utilisait le mot immigré. Donc, au fond, on était respectueux de la grammaire française, forme active, forme passive.
Mais il y avait quelque chose de plus péjoratif, effectivement.
Très nettement, c'est-à-dire qu'il était considéré comme un parasite.
Hervé Lebras, à partir de quand, finalement, cette notion d'immigré a émergé en France ?
Elle a émergé dans les années, disons... À la fin des années 70, parce que jusqu'aux années 70, on parlait d'ailleurs de travailleurs migrants, et pas d'immigrés ni de migrants, et ça correspondait à la réalité, ce qu'on appelait la noria, c'est-à-dire que on faisait venir, il y avait des rabatteurs qui faisaient venir des travailleurs, souvent du sud du Maroc ou de l'Algérie, lesquels restaient 3, 4, 5 ans en France, amassaient un pécule, rentraient chez eux et étaient remplacés par quelqu'un de leur village ou de leur famille. La noria, c'est cette espèce de roue qui tourne et qui permet de faire monter de l'eau pour alimenter les champs dans une grande partie de l'Afrique du Nord. Donc, on avait cette habitude. Et puis, en 74, avec la crise, on ferme les frontières. Et à ce moment-là, ceux qui étaient en cours de noria restent parce qu'ils ne pourront plus être remplacés. Donc, ils ont un avantage à rester et à continuer à aider leur village ou leur famille. Du coup, ils demandent en 1978 à bénéficier de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire du regroupement familial. Et là, ils s'installent. Et là, ils deviennent ce que l'on appelle maintenant des immigrés. Et dans le même temps, il se passe un autre phénomène, c'est qu'à partir des années du début de 80, le nombre des étrangers en France, au recensement de 82, c'était 3 600 000. Puis au recensement de 1990, c'est toujours 3 600 000. Et au recensement de 99, c'est 3 200 000. Ouais. Donc le nombre d'étrangers diminue au moment où le Front National augmente. Il y a une sorte de paradoxe. Et à ce moment-là, certains disent « Oui, mais les Français ont le sentiment qu'il y a beaucoup plus d'étrangers. »
Voilà, c'est un sentiment.
C'est un sentiment. Ouais. Et donc, il faut tenir compte de ce sentiment. Et à ce moment-là, pour tenir compte de ce sentiment, on dit, on va rajouter aux étrangers des Français d'origine étrangère, qui sont les immigrés.
Mais justement, l'étranger, il est pris en compte à partir de quand, au fond, dans les recensements en France
hein? Il est pris, au fond, il est pris très tôt. On a mis disons, le vrai grand premier recensement français, c'est celui de 1851. Et là, le comptage sont effectués par nationalité, par département. Mmh. Et à partir de beaucoup plus tôt, à l'époque, il y a 300 000 étrangers en France. Mais le nombre va augmenter vers la fin du 19e siècle et en 1891, à ce moment-là, on a 1 100 000 étrangers et la xénophobie se développe, une ouais. inquiétude de la France. La France estime à partir des années 1880 que si elle a perdu l'Alsace-Lorraine, c'est pas parce que les Allemands avaient une meilleure armée et pas parce qu'ils n'avaient pas de traîtres dans leur armée, mais parce qu'ils étaient plus nombreux et qu'ils faisaient plus d'enfants. Ouais. Et donc, il y a une peur qui monte des étrangers, notamment de l'idée que les étrangers vont faire des colonies étrangères et que ça sera une cinquième colonne et que même s'ils sont d'ailleurs naturalisés, Bertillon, qui est l'un des grands statisticiens de l'époque, parle de faux-nés français, N-E-Z. Oui.
Alors, ce sont des immigrés qui viennent de très près. Hein. Ce sont des immigrés des frontières, des Suisses, des Espagnols, des Luxembourgeois, des Allemands et 800 Africains, c'est ça, en 1891
oui. Absolument.
Hein, en France.
Oui, c'est des voisins. 94% des étrangers en France en 1891 viennent d'un pays voisin de la France. Mmh. Et quand on a des renseignements supplémentaires, c'est pas simplement d'un pays voisin, c'est d'une province voisine, c'est-à-dire les Italiens viennent du Piémont, les Espagnols de Catalogne.
Hervé Le Braz, vous êtes notre invité cet après-midi dans La Tête au Carré avec les messages des auditeurs sur le site de l'émission. Oh my girl, you know I'll never see the end of things that we just started in the sun. And money never meant a thing to me that way. Oh, my girl, you know I'll never see the end of lies and things we never can get over. And I will never go away into the night. You see me, but I try. My Girl avec Part Company à l'instant sur France Inter. Hervé Lebras, démographe, notre invité pour ce livre L'âge des migrations aux éditions Autrement, avec les messages des auditeurs. Tiens, ce commentaire de Julie qui nous dit « La migration des populations est, je pense, un phénomène naturel qui a construit le monde et le fait vivre et évoluer. » Bah, finalement, à la lumière de ce que vous nous montrez, c'est assez exact quand même.
Ah, là, je crois qu'elle a même commencé à lire mon livre puisque je pars de l'apparition de l'Homo sapiens.
Absolument.
Et c'est le paléontologue Pascal Pic dit au fond, les espèces de primates ont mal réussi. Elles sont celles qui restent, elles sont restées confinées dans leurs forêts tropicales. Il y en a une seule qui est sortie des forêts.
Homo sapiens,
et
donc.
C'est Homo sapiens. Et il y a quelque chose qui pousse l'Homo sapiens, au fond, à partir à l'aventure. Et il a conquis le monde, et il n'a pas simplement conquis le monde. En partant en voyage, il a rencontré d'autres populations d'Homo. L'Homo néandertalis, et maintenant l'homme de Denisova qu'on a trouvé dans l'Altaï. Et là, il s'est mêlé à eux. Et en se mêlant à eux, il a acquis des immunités ou des capacités, par exemple, de vivre en altitude.
Le c'est nos petits pourcents.
Exactement. Voilà. Autrement dit, ce qui a fait le succès de l'Homo sapiens, c'est le fait que nous sommes peut-être même trop nombreux, d'ailleurs, sur Terre. C'est un, la migration. Deux, le métissage.
Absolument. Donc, c'est bon de le rappeler aussi. Hein, avec ce berceau africain, qui est quand même notre racine commune à tous. Hein. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus.
Pour Homo sapiens, mais vous savez qu'il y a, il y a eu sans doute beaucoup d'apparitions d'autres types d'homo. On n'a que Néandertalis et Denisova, mais il y en a certainement d'autres.
On va écouter la voix de Martin Scorsese. C'était dans le 7-9 de France Inter en octobre 2015. Hervé Lebras, on l'écoute et puis on commente juste après.
Vous savez, l'Amérique est composée d'immigrants, bien entendu. Et dans les gangs de New York, la première grande vague d'immigrants est venue d'Irlande. Et ils ont été rejetés pour la plupart. Et en 50-60 ans, il y a eu une intégration qui s'est produite, en dépit du fait de la différence de religion.
Ensuite,
la vague suivante était italienne. Ils sont arrivés aux États-Unis pour voir que le gouvernement local, tout l'environnement municipal, tous ces gens-là, c'était des Irlandais.
So this is another maybe 40, 50 years.
Il a fallu 30, 40 ans
d'assimilation,
d'intégration, je devrais dire, plutôt qu'assimilation.
C'était
à l'époque où moi, j'étais en train de grandir. La vague suivante, c'était les Latinos, les Sud-Américains.
Voilà, Martin Scorsese sur France Inter, donc en 2015, Hervé Lebras. Alors, l'exemple américain, par exemple, avec ces migrants irlandais et italiens, et puis la situation aujourd'hui, très opposée, évidemment, à ces mouvements d'immigrés, et pourtant, le président américain lui-même, qui est aussi un enfant de l'immigration, au fond, on pourrait dire les choses comme ça.
Absolument, puisque je crois son grand-père était venu d'Allemagne. Et puis, ajoutons que ses épouses successives, il les choisit d'habitude en Yougoslavie. Là, vous avez un résumé avec ce personnage. Mais il faut se méfier, c'est que l'histoire de la migration aux États-Unis, elle est aussi une histoire de rejet. C'est-à-dire que chaque vague migratoire a été très hostile à la suivante. Il y a une formule qu'on cite quelquefois qui dit « le dernier entré ferme la porte ». Et effectivement, à chaque fois, les Irlandais ont été hostiles. Les Anglais, que Martin Scorsese aurait pu dire que les premiers migrants, c'était quand même les Anglais, ont été très hostiles aux Irlandais, comme d'ailleurs dans toute leur histoire. Les Irlandais très hostiles aux Italiens, Italiens très hostiles à l'Europe centrale.
Absolument.
Et l'Europe centrale très hostile. Il y a eu une migration dans les années 30 qui est la migration des Noirs vers le Nord et qui donne les ghettos.
Et ça, c'est un fait universel, hein, parce que c'est ce que vous décrivez aussi, cette façon de mal accueillir celui qu'on a été auparavant. Enfin,
oui, plus ou moins, mais c'est vrai que c'est un fait très, très large, mais ce qu'on voit actuellement avec le gouvernement Trump est quand même, et même d'ailleurs dans plusieurs pays d'Europe, est quand même très extrême par rapport à notre histoire passée, parce qu'au fond, les frontières étaient ouvertes en France jusqu'à une époque récente, et simplement c'était la possibilité de trouver du travail qui était la condition. C'est pour ça d'ailleurs qu'au XIXe siècle, il y avait des livres livret de travail. Et si on n'avait pas de travail, on ne migrait pas.
C'était... Ouais. Hervé Le Braz, alors on parlait tout à l'heure du recensement de 1891 en France, pour connaître un petit peu aussi les différentes répartitions sur l'origine justement des personnes qui venaient migrer. Ça a beaucoup changé. Hein. On parlait de 800 Africains au 19e siècle. Évidemment, les choses sont totalement différentes aujourd'hui. Hein.
Ah ben, j'ai signalé, c'est en 1891, 94% des immigrés, ou des étrangers à l'époque, venaient d'un pays voisin. Aujourd'hui, c'est 14% seulement qui viennent d'un pays voisin. Donc, il y a eu une mondialisation de la migration. Cette mondialisation, quelquefois, vous fait craindre une invasion, mais en fait, elle a une logique forte. Et je dirais que la plus grosse différence, et qui apparaît dans au moins un chapitre du livre, c'est que désormais c'est une migration de personnes éduquées le plus souvent. Pour donner un chiffre, en l'année dernière, les premières cartes de séjour qui ont été attribuées en France, c'est 220 000 cartes de séjour. 65% des personnes qui l'ont reçue avaient le bac ou un diplôme universitaire, donc les deux tiers. Ouais. Et ça, c'est une très grosse différence avec la migration du 19e siècle, qui était une migration, et même des années 60, qui était une migration de gens, de travailleurs de force, disons, pour, comme on le disait, prendre les métiers dont les Français ne veulent pas.
Absolument. Et pourtant, vous dites aussi à quel point ce sont des personnes qui perdent leur statut de leur pays d'origine, avec justement leur diplôme et leur capacité économique, et qui reprennent tout à zéro, au fond, aussi, en arrivant sur notre territoire.
Pas toujours, regardez, par exemple. Oui, disons que c'est des personnes qui ne retrouvent pas ce dont elles auraient pu, ce qu'elles auraient pu espérer dans leur pays, mais très souvent, dans leur pays, elles ne trouvaient pas de débouchés. Il faut voir que, au fond, l'un des plus gros changements dans le monde au cours des 50 dernières années, c'est la montée de l'éducation. Je crois que je donne le chiffre pour le Maroc. Au Maroc, en 1970, il y avait 20 000 étudiants. Il y en a cette année 950 000. Ces 950 000 auront du mal à trouver du travail et surtout, ils sont mobiles parce que quand vous avez un diplôme, vous pouvez circuler dans le monde, vous pouvez montrer votre diplôme et même si vous avez un boulot qui est au-dessous de la compétence que vous avez acquise, vous en trouvez du travail. On a besoin de travail. Tandis qu'autrefois, il y a 50 ans, un agriculteur ne peut pas migrer avec son champ, avec son troupeau. Donc c'est beaucoup plus dur. S'il migre, il perd tout.
Alors justement, Hervé Le Braz, il y a un institut américain de sondage qui a mené entre 2008 et 2010 une enquête dans 151 pays avec les souhaits des migrants, savoir un petit peu ce qu'ils recherchaient. 450 000 personnes donc, ont été interrogées dans le monde entier. Quelles sont les réponses qui sont revenues dans ce sondage?
Bah surtout, une énorme envie de migration. Et d'ailleurs, il n'y a pas seulement l'Institut américain dont vous parlez, mais l'Eurobaromètre qui passe des enquêtes dans tous les pays de l'Union européenne, a montré la même chose. Dans tous les pays de l'Union européenne, 10% au minimum des personnes souhaitent migrer.
Quitter leur pays.
Ouais. Oui, mais ce qu'a fait l'Institut américain est un tout petit peu plus sérieux, en sens que ils ont demandé non pas simplement quitter le pays, mais quels étaient ceux qui avaient entrepris des démarches pour le quitter dans l'année suivante. Et même avec cette restriction, on arrive encore à des chiffres très très élevés. On est de l'ordre de, actuellement dans le monde, près de 60 millions de personnes sont prêtes ou ont commencé à préparer leur départ pour l'an prochain. Et cette mobilité est liée très largement à l'augmentation du niveau éducatif.
Qu'est-ce qui fait qu'on décide de partir vraiment? Qu'est-ce qui facilite le passage justement à la migration? Alors, le fait de retrouver aussi dans le pays dans lequel on souhaite aller des personnes originaires du même pays que soi ou pas?
Non, je pense que c'est un problème alors qui est beaucoup plus général et que j'ai signalé à propos de l'éducation. Le niveau d'éducation a énormément augmenté, pas simplement en France, mais dans le monde. En France, au recensement de 1968, seulement 15% des ouvriers avaient un diplôme, un simple CAP. Actuellement, c'est 70%. Donc, ils ont souvent un bac technique ou technologique. C'est donc plus du tout les mêmes personnes. Et ces personnes-là, au fond, se projettent à l'échelle du monde. Et si vous voulez, d'un côté, l'éducation a énormément augmenté dans la plupart des pays, mais de l'autre côté, les structures productives ne sont pas vraiment adaptées à cette augmentation du capital humain. Donc il y a un divorce entre les deux, et ce divorce entre les deux conduit à de la migration de personnes diplômées, mais aussi, dans un cas comme la France, par exemple, conduit à, je crois, une grande frustration, parce qu'un certain nombre de jeunes Français se disent « mais avec le diplôme que j'ai, je n'ai même pas le métier ou la profession ou l'emploi que mes parents avaient avec moins de diplôme ». Et ça, c'est assez dur et assez difficile à gérer. Donc il y a cette sorte de divorce entre la structure productive et la structure éducative, qui est un fait mondial.
Hervé Le Braz, l'invité de La Tête au Carré cet après-midi, et vos messages franceinter.fr. Sexual Healing, Marvin Gaye à l'instant.
La Tête au Carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Allez, dernière partie de notre discussion avec Hervé Le Braz autour de l'âge des migrations. C'est un livre aux éditions Autrement, les messages des auditeurs. Celui d'Alain, par exemple, qui nous dit ceci. Je ne mets pas du tout en doute ce que vous nous dites, Monsieur Le Braz, mais je vous objecterai au moins les faits suivants. Il était d'abord bien plus difficile d'obtenir la nationalité française dans les années 30. Une première réponse.
Oui, tout à fait. Oui, il y a eu, mais disons que peut-être qu'il était aussi, c'était pas la même population. Il était aussi plus difficile, si on peut dire, de devenir français. Très souvent, désormais, ceux qui obtiennent la nationalité, c'est pas si simple. Hein. En moyenne, c'est après au moins 10 ans de séjour, même si la loi dit 5 ans. Mais on a affaire à des personnes qui sont nettement plus éduquées que dans les années 30.
Et puis deuxième partie, les soldes migratoires semblent modestes, mais il y a une concentration urbaine aujourd'hui. L'emploi se fait rare, le logement difficile d'accès et le développement territorial est déséquilibré, désertification rurale et médicale.
Oui, là c'est tout à fait juste, mais ça touche assez peu la question de la migration, sauf que effectivement les étrangers et ceux qu'on appelle les immigrés sont en général, vivent en général beaucoup plus dans les agglomérations que dans le rural profond, qui c'est normal d'une certaine manière. Le rural profond a plutôt tendance à vieillir, à perdre des habitants, à ne pas avoir énormément de demandes d'emploi, alors que les villes et les grandes agglomérations sont encore des marchés d'emploi assez fort. Un certain nombre d'emplois en France ne sont pas pourvus faute de spécialités. C'est pas du tout pour vrai pour l'ensemble de l'immigration en France, mais prenez par exemple le cas des médecins, et c'est un cas que j'étudie attentivement dans le livre, les médecins maintenant sont dans un ordre mondial, donc les médecins français partent exercer en Angleterre, au Canada, puis éventuellement aux États-Unis, en Suisse, et donc ils sont remplacés par des médecins qui viennent du Liban, d'Égypte, de quelquefois même simplement du Portugal, ou de pays du sud, ou de Grèce, du pays du nord d'Europe. Il y a une circulation générale, c'est pas très sympathique non plus, parce que ça veut dire qu'il y a une sorte d'ordre mondial qui s'instaure, où tout en haut, on a les États-Unis qui sont visés, puis ensuite, on a le Canada, l'Australie, la Grande-Bretagne, la Suisse, et puis ensuite la France, l'Allemagne, et ainsi de suite. Et donc, on est dans cet ordre mondial, alors on est obligé d'en tenir compte, et la migration est de plus en plus une adaptation aussi à cet ordre mondial.
L'opinion publique est hostile à l'immigration, on voit des exemples à peu près partout, comme par exemple en Angleterre avec la chasse aux Polonais depuis le Brexit. Voici justement un reportage à ce sujet diffusé en novembre 2007 sur Arte.
Harlow, 80 000 habitants au nord-est de Londres. Fin août, cette petite ville d'apparence tranquille est devenue le symbole d'une Angleterre xénophobe. Sur cette place, Arek Josvik, ouvrier polonais de 39 ans, a été mortellement agressé par 6 adolescents à la sortie d'une pizzeria. Une semaine plus tard, un hommage rassemble des centaines de personnes. Parmi elles, Eric, un des 2000 Polonais de la ville, un ami et voisin de la victime.
Une telle tragédie doit nous pousser à être encore
plus solidaires et unis contre ces actes.
Bouleversé, Eric ne se sent plus en sécurité dans ce pays où il est arrivé il y a 13 ans.
On ne veut pas vivre dans un pays où on ne se sent pas les bienvenus, où on ne se sent pas bien. Ma femme veut partir et pour ma part, honnêtement, je ne sais pas. Je me pose la question tous les matins, que dois-je faire ?
Voilà, novembre 2016 hein, sur Arte, donc pour l'extrait de ce reportage. Le Brexit, l'une des conséquences justement, avec cette crispation de la
une
population.
Une des conséquences et une des causes, semble-t-il. Et c'est lié à ce qu'on en France, on appelle l'affaire des travailleurs détachés. Il y a là véritablement un problème. Alors pourquoi est-ce que ça a été plus sensible en Angleterre ? C'est pas évident dans la mesure où le chômage est faible en Angleterre, mais ce qui nous a surpris tous, c'est que ça touche des Européens, puisque très souvent en France, on oppose au contraire l'immigration européenne qui est considérée comme bonne,
les
Italiens, les Polonais formidables,
très bonne intégration,
l'immigration plus récente qui vient d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne. Et là, on voit que c'est plus large, c'est que le refus touche tout ce qui n'est pas anglais. Et c'est d'autant plus curieux que beaucoup de Polonais n'étaient pas installés en Angleterre ou peu installés, c'est-à-dire que c'était plutôt des travailleurs comme mutants, si vous voulez. Ils travaillaient 2-3 mois en Angleterre, revenaient un peu chez eux. Et d'ailleurs, en 2008, quand la crise a éclaté, à l'époque, il y avait à peu près 600 000 Polonais qui travaillaient au Royaume-Uni et 300 000 sont rentrés chez eux parce qu'ils avaient gardé leur domicile et leur famille. Donc on était dans une forme de migration plus souple et c'est assez étonnant que l'Angleterre se soit à ce point-là, au fond, transformée en pays xénophobe complètement. Si
et, on peut dire. Et la France, Hervé Le Braz, aujourd'hui, les enquêtes, qu'est-ce qu'elles montrent sur cette crispation, sur l'hostilité vis-à-vis des étrangers ? Les chiffres sont quand même, les enquêtes montrent une grande majorité d'hostilité.
Oui, qui est d'ailleurs d'autant plus curieuse que, justement, il n'y a absolument pas un afflux en Angleterre. Il y avait un certain afflux d'étrangers parce que en Angleterre, c'est très facile de trouver du travail. Il y a pratiquement plus de code du travail, donc il n'y a plus de vraie différence entre travailler au noir et travailler tout court, alors qu'en France, c'est encore difficile de travailler au noir. Donc c'est quelque chose qui freine l'immigration. Mais le sentiment est plutôt mauvais. Ceci dit, on a souvent tendance à montrer la xénophobie et peut-être pas assez à montrer. Je dirais qu'il y a au moins, mais sans doute, peut-être 40% des Français qui sont extraordinairement généreux. On a vu, ne serait-ce que les associations à Calais, c'est un travail absolument formidable, mais au fond, on le montre moins, peut-être parce que c'est positif et que le négatif est plus spectaculaire.
Et les voix se font plus entendre aussi.
Alors, oui, et les voix se font
entendre. On l'a vu avec la relocalisation des migrants de Calais.
Voilà, mais même dans des petites villes qui ont été, il y a des manifestations manifestations hostiles à l'installation des migrants de Calais, et puis on repasse 3 mois plus tard, et au contraire, ça y est, ça s'est bien passé, parce que au fond, on a très souvent, et c'est le cas en France, on a très souvent peur de ce qu'on connaît mal. Et c'est pourquoi aussi, en France, c'est au fond dans les régions où il y a le moins d'étrangers et des migrés qui a le plus de Front National et le plus de xénophobie.
Mais ça, les cartes l'ont bien montré. Plus on s'éloigne des gares, des centres-villes, et plus on vote Front National, parce qu'on est moins confronté justement à la réalité.
Tout à fait. Quand on prend la région parisienne, la carte des votes du Front National est exactement l'inverse de la carte de l'implantation des immigrés et des étrangers.
Hervé Lebras, vous avez été amené à croiser Marine Le Pen sur des plateaux de télévision. Alors, quand on a justement les faits, les chiffres, les cartes de l'immigration, on ne peut pas tenir le discours du Front National.
Non, c'est impossible, mais c'est aussi, je dirais, pratiquement impossible de discuter avec le Front National.
Qu'est-ce qui s'est passé justement à l'occasion de vos échanges
Bon, c'était juste un tout petit échange parce que elle a dit, voilà, il faut diviser, c'était son slogan, jusqu'à une époque récente, c'était « il faut diviser par 20 l'immigration ». Alors ça veut dire qu'au lieu des 220 000 personnes qui entrent, c'est l'immigration, il fallait qu'il y ait 10 000 personnes. Alors je lui ai fait simplement remarquer que parmi les entrées, il y a près de 70 000 étudiants étrangers qui s'inscrivent pour la première fois en France. Et la réponse a été, mais ces étudiants étrangers prennent la place des étudiants français. Donc on voit, c'était le slogan, l'ancien slogan sur les chômeurs, les immigrés qui prennent la place des chômeurs, qui était recyclé sans aucune réflexion. Et il n'y a aucune réflexion de fond possible, simplement parce que pour le Front National, comme d'ailleurs pour une partie des opinions xénophobes, qui dépassent hélas l'électorat du Front National, c'est une brique essentielle dans leur conception du monde. Et donc, si on retire cette brique, eh bien, ça fendille et ça menace cette conception du monde. Donc, ils se moquent de discuter de la rationalité de cette chose-là. Ce qu'ils veulent, c'est conserver cette brique qui maintient leur édifice en forme.
Et vous faites des statistiques. Ce qui est absolument abominable.
Mais bien sûr, c'est mon métier. Et je dois dire que la statistique, c'est d'abord utile à l'État, c'est l'origine du mot. Mais c'est aussi utile aux citoyens, parce que comment voulez-vous, dans un pays de 65 millions d'habitants, comprendre ce qui se passe? Il faut que vous ayez là des chiffres qu'on appelle représentatifs, qui vous donnent une peinture du pays.
Ben voilà, justement, c'est ce que vous avez fait en brossant la peinture du pays au travers des âges des migrations. Et il faut lire cet ouvrage très éclairant, Hervé Lebras, à quelques jours maintenant du premier tour des élections en particulier. Absolument. Et c'est aux éditions Autrement. Merci beaucoup d'être venu nous en parler.
Merci à vous.